France Culture.
À voix nue, Caroline Brouet.
Dominique Moisy, géopolitologue.
Premier épisode, le laboureur, la gazelle et le petit prince. Bonjour Dominique Moisy.
Bonjour.
Géopolitologue, avez-vous dit, c'est juste, puisque depuis plus de 40 ans, vous observez le monde et ses rapports de force, de la fin de la guerre froide aux fractures contemporaines, des illusions de la mondialisation au retour brutal de la guerre sur le continent européen. Vous êtes conseiller spécial de l'Institut Montaigne depuis plusieurs années, mais vous avez longtemps été directeur adjoint de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, que vous avez fondé, ou cofondé. Vous avez enseigné les relations internationales à l'ENA, au Collège d'Europe, à l'École des hautes études en sciences sociales, à l'Institut d'études politiques, au King's College de Londres. Vous les chroniquez aux Échos, à West France, au Financial Times, au New York Times, à Die Welt, etc. Mais ce qui fait votre marque de fabrique, je dirais, si vous me permettez ce mot, c'est que vous avez déplacé notre manière de comprendre les relations internationales en y introduisant ce qu'on n'attendait pas, les émotions. Avec votre livre, paru en 2008, qui vous a propulsé sur la scène médiatique en remportant un très grand succès, la géopolitique de l'émotion, vous avez montré que les peuples et les États sont traversés par trois émotions fortes, la peur, l'humiliation, l'espoir. Et vous continuez d'appliquer cette grille de lecture à notre monde, 18 ans plus tard, démarche à la fois très originale et, à mon sens, très éclairante. Dans l'exergue de ce livre, dont nous parlerons longuement dans l'épisode 3, Géopolitique de l'émotion donc, vous écrivez « En mémoire de mon père, Jules Moisy, matricule 159-721 à Auschwitz, qui survécut à la peur et à l'humiliation pour m'enseigner l'espoir. » Tout vient de là ?
Oui, je pense. En réalité, mon histoire personnelle, celle de fils de survivants d'Auschwitz a probablement orienté mes choix professionnels. Quand on s'intéresse à la géopolitique, on peut le faire à partir de plusieurs points de vue. Il y a ceux qui se passionnent pour la guerre, qui collectionnaient les petits soldats quand ils étaient petits garçons et qui adorent compter les missiles, sont excités par le déplacement des chars sur la plaine. Dans mon cas, c'était l'inverse. Je voulais connaître l'ennemi, le mal, le comprendre, essayer de l'expliquer. Et à la marge, c'était une ambition excessive et absurde d'un petit enfant, rendre la guerre moins probable. Donc je crois que il y a un lien total entre mon statut, celui de fils de survivant d'Auschwitz, et les choix professionnels que j'ai pu faire. Et je pense que cette approche que vous avez mentionnée, basée sur les émotions, traduisait aussi cette idée que il fallait intégrer les émotions pour comprendre le monde et les intégrer pour avoir un espoir de les transcender. Donc c'était ça. Ma seule existence est un double miracle. Je n'aurais pas dû naître. Et je n'aurais pas dû naître juif. On en parlera. Mais je voulais donner un sens à ce miracle. Et toute ma vie, j'ai été beaucoup plus préoccupé de transmettre des valeurs que d'enseigner des connaissances. Je ne voulais pas rendre les gens plus savants, je voulais éveiller leur conscience.
Et ne le mettez pas au passé, je crois que vous continuez de le faire encore aujourd'hui.
Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, j'ai commencé à enseigner il y a plus de 50 ans. Donc vous m'avez rajeuni oui. en parlant de 40 ans.
Je dis depuis plus de 40 ans. Vous êtes né, alors on va le dire, le 21 octobre 1946. Bon, vous êtes né à Neuilly-sur-Seine, même si vous n'avez pas grandi à Neuilly-sur-Seine. Vous êtes né à un an et demi à peu près après le retour de votre père. Et vous écrivez que vous avez grandi, malgré tout, dans un écheveau de silence et de secrets. Un silence, notamment de la part de votre père, sur son histoire passée, qu'il n'a levé que en 1985, il avait 85 ans. Vous êtes allé le voir, vous avez enregistré cette conversation que vous avez eue avec votre père, il a raconté ce qu'il avait enduré. Vous dites même que vous n'avez jamais pu réécouter la bande, je ne sais pas si vous l'avez fait depuis, puisque vous l'avez enregistré il y a longtemps maintenant, il y a justement 40 ans. Toujours pas, je vois votre nom de la tête. Mais vous écrivez que ce qui a fait qui vous êtes, c'est aussi une interrogation à propos de vos origines. Parce qu'il y avait le silence, parce qu'il y avait le secret. Vous avez grandi dans cet écheveau.
Alors il y a le silence de mon père. Mais j'ai appris à lire les chiffres sur l'avant-bras de mon père. Et je ne comprenais pas pourquoi ça ne partait pas. Et je lui posais des questions quand j'étais petit garçon. Et je m'apercevais que ma mère, le lendemain matin, me disait, tu sais, ton père a mal dormi. Les questions que tu lui as posées l'ont bouleversé. Et donc, je me suis moi-même enfermé dans une forme de silence pour protéger mon père. Et c'est pas seulement le silence, vous avez mentionné un autre mot, le secret. Parce que j'étais à la rencontre de ces deux termes. Le silence de mon père sur Auschwitz et le secret de la conversion de ma mère au catholicisme, très peu de temps après son mariage, en 1931-1932, qui était resté un secret de famille, que la famille de mon père a découvert lors des funérailles de ma mère. Et j'ai dû passer quelques coups de fil pour expliquer que la cérémonie allait être un peu particulière, puisque j'allais lire la prière des morts, mais un prêtre allait bénir ma mère. Donc c'était compliqué.
C'était compliqué. Et en même temps, dans cette complexité, un mot d'ailleurs que nous réutiliserons dans votre parcours et dans votre travail de recherche, Dominique Moisy, dans cette complexité, vous avez réussi à tracer votre propre chemin. C'était un peu difficile. Vous écrivez dans peut-être une autobiographie, je ne sais pas comment vous la qualifiez, que vous avez écrite en 2011, Un juif improbable, que ça vous a pris du temps de chercher finalement qui vous étiez entre ce père juif qui avait été d'ailleurs le seul déporté de la famille, famille d'origine roumaine côté paternel et famille d'origine ukrainienne côté mère, et la conversion au catholicisme de votre mère. Donc tracer votre chemin, c'était aussi trouver votre propre identité.
Oui, je crois que ça n'est pas commun d'aller à la synagogue le samedi avec son père et à l'église le dimanche avec sa mère. Et finalement de vivre cela assez bien, assez harmonieusement, avec la recherche, au fond, des passerelles entre ces deux religions. C'était les mêmes prières dans des langues différentes. Entre la synagogue Chasseloup-Lauba et l'église Saint-François-Xavier, il y avait quelques centaines de mètres, des océans pour les autres, et pour moi, une certaine forme de continuité. Continuité dont je m'entretenais avec le rabbin de Chasseloup-Lauba, qui ignorait tout de la conversion de ma mère, mais à qui je posais des questions sur la différence entre le judaïsme et le christianisme, et qui me donnait des réponses qui me satisfaisaient, qui me paraissaient très complémentaires. Il me disait, mais au fond, le monde de la chrétienté est dominé par la charité. Le monde du judaïsme est dominé par la notion de justice. Et donc, c'était pour moi... il y avait une sorte de continuité. Alors, c'est vrai que ma mère était très religieuse, presque mystique. Et j'aimais sa foi. Et mon amour de la musique de Bach me rapprochait d'elle. Mon père était beaucoup plus distant par rapport à la religion. C'était plus culturel chez lui que religieux. Mais il était évident pour moi que je ne pouvais que rester juif, que je n'allais pas donner cette victoire posthume à Hitler. Il avait voulu anéantir mon peuple, je n'allais pas faire un tout petit pas dans sa direction. Donc pour moi, la question ne s'est pas posée.
Même si le catholicisme de votre mère l'a sauvée, puisqu'elle a été cachée par un réseau de résistants chrétiens, alors que le judaïsme de votre père l'a perdu, il a lui été dénoncé en 1943.
Oui, c'est le cœur de cette douleur. Mon père se bat bien pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est décoré de la Croix de guerre parce qu'il a réussi à faire traverser la Loire à ce qui restait de son régiment. Il aurait été fait prisonnier. Il se serait retrouvé dans un camp de prisonniers, d'officiers, de sous-officiers français. Mais comme il s'est bien comporté, il a été décoré de la Croix de guerre, il a quitté Paris pour se réfugier à Nice. Quand les Allemands ont succédé aux Italiens, il a été dénoncé, arrêté par Brunner, conduit à Drancy par des gendarmes français. C'est pour ça que quand j'entends un homme politique français comme Éric Zemmour dire que Pétain était bon pour les Juifs, j'ai un problème. Ça ne correspond pas à l'expérience la plus intime et la plus profonde qui se soit produite dans ma famille. Voilà quelqu'un qui se bat pour la France et est trahi par la France. Car quand même, c'était la France, l'époque de Vichy.
Vous parlez, Dominique Moisy, du caractère religieux, presque mystique, de votre mère, à la différence de votre père. Il y a d'autres différences entre eux. Vous en marquez beaucoup dans Un Juif improbable. D'abord, vous dites que vous avez hérité de votre père une foi en l'homme au-delà du pire toujours possible. Et de votre mère, un goût pour les arts et la culture. On entendait ce que vous disiez de Bach, mais il y en a bien d'autres. Et d'ailleurs, vous nous accueillez chez vous, ici, dans le 8e arrondissement de Paris, dans un appartement haussmannien, très bourgeois.
Pré-haussmannien.
Pré-haussmannien, soyons précis. Et vous avez arrêté la musique quand on est arrivé, le Songe d'une nuit d'été de Mendelssohn, mais vous écoutez beaucoup de musique. Et d'ailleurs, bien sûr, nous y reviendrons. Mais donc, différence aussi de culture entre vos parents. Et puis même, vous dites à un moment que votre père était tout droit sorti d'un film avec Gabin, qu'il adorait le cinéma, qu'il vous emmenait beaucoup au cinéma, Jules Moisy. Et votre mère, Charlotte, elle, était plutôt fascinée par les mondanités, le luxe, l'art, ou les arts, la mode, la haute culture, l'opéra, le théâtre et l'Italie. Voilà, ça c'était là. Et alors au milieu, le petit Dominique, il aimait quoi?
Oh bah, les deux. Les deux, le bon sens et l'humanité de mon père, le raffinement et le goût des arts de ma mère. C'est compliqué parce que, en réalité, j'ai eu une enfance très heureuse parce que profondément aimée par mes parents et en même temps une enfance compliquée. Pas seulement parce que je venais de deux mondes différents, mais parce que l'entente entre mes parents n'était pas bonne. J'avais une quête d'harmonie qui était une forme de réponse aux tensions que je sentais dans ma famille. Et j'avais une sorte de vocation de diplomate, mais il ne s'agissait pas pour moi de réconcilier à l'époque les Français et les Allemands, mais de faire que mon père et ma mère restent tout simplement ensemble. Donc c'était ça, si j'ose dire. L'harmonie, elle commençait par une quête de ce qui n'existait pas dans ma famille. Et l'amour était présent en quantité incalculable, et c'est merveilleux. Mais il y a eu la ruine aussi, qui m'a déstabilisé. C'est-à-dire que l'entreprise familiale de maroquinerie, qui avait été déstabilisée par l'arianisation pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'est effondrée au début des années 60, et ça a été une ruine réelle, profonde. J'ai des souvenirs de l'humiliation que j'ai pu ressentir quand tel oncle qui croyait bien faire et qui était d'une grande générosité s'occupait de m'habiller, de me chercher un manteau. Et ce manteau, je ne l'avais pas choisi et je ne l'aurais certainement pas choisi tel qu'il me l'avait offert. Mais donc c'était le sentiment de vulnérabilité, de danser sur un volcan double, volcan à l'intérieur, compte tenu des scènes terribles que ma mère pouvait faire à mon père, et volcan venu de l'extérieur, compte tenu de la fragilité de notre situation économique. J'étais pupille de la nation, je n'aurais pas pu poursuivre mes études sans l'aide de la République. Et vous avez mentionné l'environnement bourgeois dans lequel je vis. Je pense que c'est une réponse à une blessure d'enfance. Je me protège. J'essaye de reconstruire ce qui était avant. Avant Auschwitz, avant la ruine de mes parents.
Vous parlez des tensions qu'il y avait dans votre famille à ce moment-là. Votre père l'a-t-il aussi vécu comme un déclassement ? Parce qu'il est quand même passé de directeur d'une entreprise à simple comptable d'un magasin de meubles familial. Est-ce qu'il l'a fait sentir ? Est-ce que vous l'avez senti ?
Je le sentais pour lui. Lui, c'est compliqué parce que quand on a survécu à Auschwitz, ce déclassement social n'est pas grand-chose. Sa résilience l'avait fait survivre, donc il pouvait survivre à cela. Et il est mort très âgé, il était dans sa 94e année, alors qu'il était arrivé à Auschwitz à 42 ans, donc âgé, pour faire la marche de la mort. Donc j'étais plus humilié pour lui qu'il ne l'était pour lui-même.
Vous dites d'ailleurs, Dominique Moïsi, que tout ça a fait de vous un enfant ou un adolescent, parce que là on parle aussi quand même de l'adolescence, assez solitaire, assez grave, assez angoissé.
Sans doute, oui. J'étais fils unique. Le déclassement social de mes parents fait qu'ils recevaient peu. Il se sacrifiait pour moi, pour me permettre d'aller apprendre l'anglais en Angleterre, et mon statut de pupille de la nation m'aidait financièrement à cela. Non, j'étais solitaire, je me réfugiais dans la lecture et dans la musique.
Avec autre chose d'ailleurs, parce que vous disiez que pour repousser ces peurs qui prenaient parfois la forme de cauchemars ou vraiment de crises d'angoisse, il y avait comme remède l'art, et puis il y avait l'ambition.
Oui, j'étais très ambitieux et je le suis toujours.
Elle prenait quelle forme cette ambition ? C'est une ambition pour quoi ?
Pour donner un sens à sa vie. Pour faire en sorte que ce court passage soit signifiant. Et je n'aurais pas dû naître, je le répète. Il fallait donc que ce moment très court ait une signification. Dans la tradition juive, il y a cette idée de réparer le monde. Tikkun olam. Ce sentiment, je l'avais profondément. L'idée que, après votre passage, de manière infinitésimale, vous avez laissé une petite trace, et que cette trace est plutôt pour le bien et pas pour le pire. Donc ça vous donne un sentiment de mission. Mais ce sentiment de mission, il s'accompagnait pour moi d'une conscience très grande de mes limites. Et ma limite première, c'était cette distance à l'égard de l'État qui avait trahi mon père et cette volonté farouche de liberté et d'indépendance. Mon ambition, c'était cela. Ne pas dépendre d'un État, ne pas dépendre de structures qui, à un moment donné, vous contraignent. Donc, mon ambition, c'était de suivre ma voie, mais en la définissant moi-même, individuellement, en dehors des institutions, même si j'ai contribué à en créer une, l'Institut français des relations internationales.
Et on va voir comment vous avez contribué à créer donc cette institution, en passant vous-même par de nombreuses institutions dans un instant. Mais avant cela, sur la réunion, disons, de ces deux remèdes qui étaient à l'époque adolescents, jeunes, adultes, l'art et l'ambition pour vous, il y a, et vous parliez de vos lectures, Dominique Moisy, il y a un personnage qui a beaucoup compté dans ces années-là, je crois, pour vous, un personnage et un auteur, c'est Julien Sorel. Donc vous lisez beaucoup à ce moment-là. Le Rouge et le Noir, Stendhal, a été majeur parmi vos lectures. Vous vous reconnaissez dans Julien Sorel ?
Un peu. C'est vrai que le premier auteur que j'adore, c'est Stendhal. Et le second que je vais découvrir avec passion au moment de mai 68, quand je comprendrai que je traverse une révolution introuvable, pour reprendre les termes de Raymond Aron, c'est Proust. Et donc je me considère un peu comme l'enfant de Stendhal et de Proust.
Alors parlons des choix, des études que vous avez faites. Double cursus de sciences politiques et de droit. Sciences politiques à Sciences Po Paris, à l'Institut d'études politiques de Paris. Droit à l'université d'Assas, Panthéon-Assas. Donc deux institutions. Vous disiez que vous vouliez tenir une distance à l'égard de l'État. Vous êtes même allé jusqu'à passer l'ENA.
Et à le rater.
Bon, échec. Peut-être que justement, ce n'était pas votre place, comme vous le disiez. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de faire donc sciences politiques et droit? Pourquoi ces deux-là? Plus que des études de lettres, d'art.
Oui. À l'époque, c'était tout à fait naturel de faire les deux ensemble. Sciences Po, si on avait déjà, ce qui était mon cas à l'époque, une passion pour les relations internationales, on ne parlait pas de géopolitique, Sciences Po était naturel.
Donc vous aviez déjà une passion pour les relations internationales?
Ah oui.
Qui venait d'où?
De mon goût pour l'histoire. J'ai appris à lire à l'âge de 5 ans avec un très très gros livre que j'avais du mal à tenir dans les bras, qui était La vie de Napoléon par Octave Aubry. Ça m'avait été offert par mes parents et Napoléon satisfaisait mon goût pour le romantisme, l'aventure, mais c'était aussi la guerre, c'était les cours, c'était ça m'a donné le goût de l'histoire, mais de l'histoire internationale. J'étais beaucoup plus intéressé par les relations entre les États et les princes que par la politique intérieure.
Napoléon, c'était aussi les guerres, quand vous disiez au début de cet entretien qu'il y avait deux façons d'aborder les relations internationales. Ouais. Vous êtes allé d'abord...
Il faut connaître l'ennemi pour...
dans ce domaine-là, par les batailles, par les petits soldats et les chars dans les plaines.
Tout à fait.
À l'Institut d'études politiques Dominique Moisy, vous avez des professeurs fameux qui sont restés, en tous les cas, dans l'histoire de l'école. Vous citez René Raymond, Jean-Marie Chevalier, Georges Vedel, Raymond Barre, Alfred Grosser, Antoine Veil, l'époux de Simone. À l'université d'Assas, il y a un certain Maurice Duverger. Vous voulez bien nous parler de Maurice Duverger, de la façon dont vous en parlez dans Un juif improbable ?
Oui, j'ouvre mon livre par cet examen que je passe pour aller d'une année à l'autre en droit. Et c'est Maurice Duverger qui m'appelle Moïsi. Et il est grand, sec, le cheveu ras. Moïsi, parlez-moi du racisme. Et je comprends la provocation. Je ne sombre pas. Je réponds, je fais mon exposé. Il me donne une très bonne note. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'ignorais tout de Maurice Duverger. J'ignorais de ses liens ambigus avec le régime de Vichy et avec les lois racistes qu'il va promulguer. Peut-être, si j'avais connu cette histoire, j'aurais été moins impavide, moins calme. Mais oui, je commence par lui, mais je l'ai oublié. Alors que je n'ai pas oublié le doyen Védel, qui était un homme merveilleux, ou René Raymond, avec qui j'ai développé à la fin de sa vie une relation personnelle. On parlait de religion, c'était... D'ailleurs, René Raymond venait dans cet appartement.
Où nous sommes.
Où nous sommes, qui était possédé il y a très longtemps par un dignitaire de l'Église. Et dans la pièce à côté, il y avait une grande bibliothèque, une grande table, et René Raymond s'asseyait à cette table. Je l'ai appris par la suite. En fait, c'est toute une série de coïncidences incroyables. Cet immeuble était le siège du premier commissariat aux affaires juives en 1941. Et dans l'appartement du premier étage, mon grand-oncle a été interrogé. Peut-être même torturé dans les caves de cet immeuble. Mais je l'ai appris bien après avoir fait l'acquisition de cet appartement. Ici, d'après les historiens, habitait sans doute un espion de la CIA pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était là pour observer ce qui se passait. Donc, quelle coïncidence incroyable! Les ironies de l'histoire qui vous poursuivent. Je ne le savais pas quand j'ai écrit Un juif improbable. J'en parle aujourd'hui, je l'ignorais alors.
On va s'arrêter là pour le premier épisode, Dominique Moïsi, mais on se retrouve demain, bien sûr, pour la suite, où nous parlerons de votre formation intellectuelle, des maîtres à penser qui furent les vôtres, et de la façon dont vous êtes allé, disons, de Aaron à Fukuyama, des années 60 au tournant des années 80-90. À demain, et merci.
À demain.
À suivre l'épisode 2 de Aaron à Fukuyama. C'était À voix nue avec Dominique Moïsi, prise de son Clément Vuillet, réalisation Nathalie Salle, chargée de programme À voix nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.